Volume 2, section 13, les sept créations. Il n'y avait ni jour ni nuit, ni ciel ni terre, ni obscurité ni lumière, ni quoi que ce fût, à l'exception de l'unique, incompréhensible par l'intellect, ou cela qui est Brahma, Pums, l'esprit, et Pradhana, la matière, brute. Ou, littéralement, un esprit Pradhanika Brahma, deux points, cela était. L'esprit Pradhanika Brahma est Mula Prakriti et Parabrahman. Dans la Vishnu Purana, Parashara dit à Maitreya, son élève, « Je t'ai ainsi expliqué, excellent Muni, six créations. La création des êtres Arvaksrota fut la septième et fut celle de l'homme. » Il se met ensuite à parler de deux créations additionnelles et très mystérieuses, diversement interprétées par les commentateurs. Origène, en commentant les livres écrits par Cels, son adversaire gnostique, livres qui furent tous détruits par les prudents pères de l'Église, répond évidemment aux objections de son contradicteur et révèle en même temps son système. Ce système était clairement septénaire. Mais la théogonie de Cels, la genèse des étoiles ou des planètes, du son et de la couleur, n'obtint en guise de réponse que des satires et rien de plus. Cels, voyez-vous, désireux d'étaler son érudition, parle d'une échelle de création comprenant sept portails et, tout en haut, le huitième qui est toujours fermé. Les mystères du Mitra persan sont expliqués et on y ajoute en outre des raisons musicales. À ces raisons, il s'efforce encore d'ajouter une seconde explication, reliée elle aussi à des considérations musicales, c'est-à-dire aux sept notes de la gamme, aux sept esprits des étoiles, etc. Valentin s'étend sur la puissance des grands sept qui reçurent l'ordre de donner naissance à cet univers, après qu'Arétos, ou l'ineffable, dont le nom est composé de sept lettres, eut représenté la première hebdomade. Le nom d'Arétos indique la nature septénaire de l'un, le Logos. La déesse Rhea, dit Proclus, est une monade, une duade et un septénaire, comprenant en elle-même toutes les Titanidae qui sont sept. On trouve les sept créations dans presque toutes les Puranas. Elles sont toutes précédées par ce que Wilson appelle le principe indistinct, l'esprit absolu n'ayant aucune relation avec les objets des sens. Ce sont, premièrement, Mahatattva, l'âme universelle, l'intellect infini ou mental divin. Deuxièmement, Tanmatras, Bhuta ou Bhutasarga, la création élémentale, la première différenciation de la substance universelle indistincte. Troisièmement, Indriya ou Aindriyaka, l'évolution organique. Ces trois étaient les créations Prakrita, les développements de la nature indistincte précédés par le principe indistinct. Quatrièmement, Mukhya, la création fondamentale des choses perceptibles, était celle des corps inanimés. Note. La quatrième création est ici la première car les choses immobiles sont avant tout connues comme primaires, selon un commentaire traduit par Fitzwald Hall lorsqu'il édita la traduction de Wilson. Fin de la note. Cinquièmement, Taryagyagnoya ou Tiryakskrota était celle des animaux. Sixièmement, Urdvasrota ou celle des divinités. Point d'interrogation. Note. Comment est-il possible que des divinités aient été créées après les animaux? La signification ésotérique du mot « animaux » est « les germes de toute vie animale, y compris l'homme ». L'homme est appelé un animal de sacrifice, c'est-à-dire le seul parmi la création animale qui offre des sacrifices aux dieux. Souvent, en outre, lorsqu'on parle dans les textes saints d'animaux sacrés, on veut faire allusion aux 12 signes du zodiaque, comme il a déjà été dit. Fin de la note. Et septièmement, Arvaksrotas était celle de l'homme. Tel est l'ordre donné dans les textes exotériques. Selon l'enseignement ésotérique, il y a sept créations primaires et sept secondaires. Les premières représentent les forces évoluant d'elles-mêmes hors de l'unique force sans cause. Les dernières nous montrent l'univers manifesté émanant des éléments divins déjà différenciés. Ésotériquement, aussi bien qu'exotériquement, toutes les créations que nous venons d'énumérer représentent les sept périodes de l'évolution, tant après un âge qu'après un jour de Brahma. C'est l'enseignement par excellence de la philosophie occulte qui ne se sert cependant jamais du mot « création », ni même de celui d'évolution, en parlant de la création primaire, mais appelle toutes ses forces les aspects de la force sans cause. Dans la Bible, les sept périodes sont réduites aux six jours de la création et au septième jour de repos, et les occidentaux s'en tiennent à la lettre. Dans la philosophie hindoue, lorsque le créateur actif a produit le monde des dieux, les germes de tous les éléments non différenciés et les rudiments des sens futurs, en un mot le monde des noumènes, l'univers reste sans changement pendant un jour de Brahma, ou une période de 4 320 millions d'années. C'est la septième période passive, ou le sabbat de la philosophie orientale, qui succède aux six périodes d'évolution active. Dans la Shatapatha Brahmana, Brahma, neutre, la cause absolue de toutes les causes, rayonne les dieux. Les ayant rayonnés, par sa nature inhérente, le travail est interrompu. Dans le premier livre de Manu, il est dit « À la fin de chaque nuit, pralaya, Brahma qui était endormi se réveille et par la seule énergie du mouvement fait émaner hors de lui-même les esprits, ou le mental, qui dans son essence est et pourtant n'est pas. » Fin de citation. Dans le Sefer Yetzira, le kabbalistique livre des créations, il est évident que l'auteur s'est fait l'écho des paroles de Manu. On y représente la substance divine comme ayant seule existé de toute éternité, illimitée et absolue, et comme ayant fait jaillir d'elle-même l'esprit. Citation. Unique est l'esprit du Dieu vivant, béni soit son nom, qui vit à jamais. La voix, l'esprit et le Verbe, voilà le Saint-Esprit. Fin de citation. Telle est la trinité kabbalistique abstraite, anthropomorphisée avec si peu de cérémonie par les pères. De ce triple unique est émané le cosmos tout entier. De l'un émana d'abord le deux, ou l'air, l'élément créateur, puis le nombre trois, l'eau, procéda de l'air. L'éther ou le feu complète le quatre mystique, l'arboal. Dans la doctrine orientale, le feu est le premier élément. L'éther les synthétise tous puisqu'il les contient tous. Dans la Vishnu Purana, on donne les sept périodes en entier et l'on établit l'évolution progressive de l'âme-esprit et des sept formes de matière ou principe. Il est impossible de les énumérer dans cet ouvrage. Le lecteur est prié de parcourir une des Puranas. Citation. Er Yehuda commença ainsi, y est-il dit, deux points. Elohim dit qu'un firmament soit au milieu des eaux. Venez voir, à l'époque où le Saint créa le monde, il, ou il au pluriel, créa sept cieux en haut. Il créa sept terres en bas, sept mers, sept jours, sept rivières, sept semaines, sept années, sept époques, et 7000 années durant lesquelles le monde a existé. Le septième de tout, entre parenthèses le millénium. Voici donc sept terres. En bas, elles sont toutes habitées à l'exception de celles qui sont en haut et de celles qui sont en bas. Et, entre chaque terre s'étend un ciel, entre parenthèses firmament, qui les sépare l'une de l'autre. Et il y a sur elles, ces terres, des créatures qui paraissent différentes les unes des autres. Mais si vous objectez que tous les enfants de ce monde descendent d'Adam, il n'en est pas ainsi. Et les terres inférieures, d'où viennent-elles? Elles appartiennent à la chaîne de la terre et au ciel au-dessus. Fin de citation, extrait de Kabbalah de Meyer. Irénée nous sert aussi de témoin, très involontaire, pour établir que les gnostiques ont enseigné le même système, en en voilant avec beaucoup de soin la vraie signification ésotérique. Cette manière de voiler est toutefois identique à celle employée dans la Vishnu Purana et autres ouvrages. Ainsi, Irénée écrit des Marcosiens. Citation. Ils maintiennent que les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, furent produits à l'image de la tétrade primaire supérieure, et que si nous additionnons alors leurs opérations, c'est-à-dire la chaleur, le froid, la sécheresse et l'humidité, nous aurons une représentation exacte de l'Ogdoad. Fin de citation. Néanmoins, cette ressemblance et l'Ogdoad elle-même sont des voiles, tout comme dans les sept créations de la Vishnu Purana, auxquelles on en ajoute encore deux, dont la huitième, appelée Anugraha, possède les deux qualités de bonté et d'obscurité, idée plutôt Samkhya que Puranique. En effet, Irénée dit encore que, citation, ils, en parlant des gnostiques, avaient une huitième création de ce genre qui était à la fois bonne et mauvaise, divine et humaine. Ils affirmaient que l'homme fut formé le huitième jour. Parfois ils affirmaient que l'homme fut fait le sixième jour et parfois que ce fut le huitième. À moins qu'il n'ait voulu dire que sa partie terrestre fut formée le sixième jour et sa partie charnelle, point d'interrogation, le huitième, en établissant une distinction entre ces deux parties. Fin de citation. Il est vrai que l'on établissait cette distinction, mais pas comme le dit Irénée. Les gnostiques avaient un septénaire supérieur et un inférieur dans le ciel, et un troisième septénaire terrestre sur le plan de la matière. Iao, le dieu de mystère et le régent de la lune, comme l'indique Origène dans son tableau, était le chef de ces sept cieux supérieurs, et par conséquent identique au chef des sept pitris lunaires, nom qu'il donnait au Dian Shuan lunaire. Ils affirment que ces sept cieux sont intelligents et en parlent comme étant des angles, écrit le même Irénée, en ajoutant qu'à cause de cela, ils appelèrent Yao Hebdomas, tandis qu'ils donnaient à sa mère le nom d'Ogdoas, parce que, explique-t-il, elle conservait le nombre de l'Ogdoad première-née et primaire du plérôme. Cette Ogdoad première-née était, petit a, dans la théogonie, le second logos, le logos manifesté, parce qu'il était né du septuple premier logos, de sorte qu'il était le huitième sur ce plan manifesté, et, petit b, dans l'astrolatrie, c'était le soleil, Martanda, le huitième fils d'Aditi, qu'elle repoussa tandis conservait ses sept fils, les planètes. Les anciens n'ont en effet jamais considéré le soleil comme une planète, mais comme une étoile centrale et fixe. Cela constitue donc le second septénaire né de l'un aux sept rayons, d'Agni, du soleil et de bien d'autres, mais non pas des sept planètes qui sont les frères de Surya et non pas ses fils. Chez les gnostiques, ces dieux astraux étaient les fils d'Ildabaoth, entre parenthèses de Hilda enfant et de Baoth œuf, fils de Sophia Ashamoth, la fille de Sophia, sagesse, dont la région est le plérôme. Ildabaoth faisait jaillir de lui-même ses six esprits stellaires. Jova, entre parenthèses Yao, ou Jéhovah, Sabaoth, Adonai ou Adonéus, Eloi ou Eloéus, Osraios ou Oreus, Astaphaios ou Astrapheus. Note, voir aussi Gnostic and the Remains de King, page 97. D'autres sectes considéraient Jéhovah comme Ildabaoth lui-même. King l'identifie avec Saturne. Fin de la note. Et ce sont eux qui constituent le second septénaire ou septénaire inférieur. Quant au troisième, il est composé des sept hommes primordiaux, les ombres des dieux lunaires projetés par le premier septénaire. On voit par cela que les gnostiques ne s'écartaient pas beaucoup de la doctrine ésotérique, mais seulement la voilaient. Quant aux reproches que leur adresse Irénée, qui ignorait évidemment les vraies doctrines des hérétiques, au sujet de l'homme qui aurait été créé le sixième jour et de l'homme qui aurait été créé le huitième jour, cela se rattache au mystère de l'homme intérieur. Le lecteur ne comprendra qu'après avoir lu le volume 3 et avoir bien compris l'anthropogénèse de la doctrine ésotérique. Ildabaoth est une copie de Manu qui s'écrie avec orgueil « Ô le meilleur des hommes deux fois nés ! Sache que moi, Manu, je suis le créateur de tout ce monde que le mâle Viraj produit spontanément. » Il crée alors les 10 seigneurs de l'être, les Prajapati, qui, ainsi que nous le dit le verset 36, produisent 7 autres Manus. Ildabaoth s'écrit aussi orgueilleusement « Je suis père et Dieu, et il n'y a personne au-dessus de moi ». Après quoi sa mère le remet froidement à sa place en lui disant « Ne mens pas, Ildabaoth, car le père de tout, le premier homme, entre parenthèses Anthropos, est au-dessus de toi, de même qu'Anthropos, le fils d'Anthropos ». C'est une bonne preuve de l'existence de 3 logoi, sans compter les 7 nés du premier, dont l'un est le logos solaire. Qui donc était cet Anthropos, lui-même si supérieur à Ildabaoth? Les archives des gnostiques peuvent seules résoudre cette énigme. Dans Pistis Sophia, le nom de Ieou, composé de 4 voyelles, est ordinairement accompagné de l'épithète d'homme primordial ou premier. Cela démontre encore que la gnose n'était que l'écho de notre doctrine archaïque. Les noms qui correspondent à Parabrahman, à Brahma et à Manu, le premier homme pensant, sont composés de sons comprenant une voyelle, 3 voyelles et 7 voyelles. Marcus, dont la philosophie était certainement plus pythagoricienne qu'autre chose, parle d'une révélation qui lui fit faite des 7 cieux, qui émirent chacun le son d'une voyelle en prononçant les 7 noms des 7 hiérarchies angéliques. Lorsque l'esprit a imprégné jusqu'au plus minuscule atome des 7 principes du cosmos, alors commence la création secondaire qui suit la période de repos dont nous venons de parler. Les créateurs, entre parenthèses Elohim, esquissent durant la seconde heure la forme de l'homme, dit le rabbin Siméon dans le Nushtemeron des Hébreux. Il y a 12 heures dans la journée, dit la Mishnah, et c'est pendant celle-là que la création est accomplie. Les 12 heures de la journée ne sont encore qu'une copie amoindrie, un écho, faible mais fidèle de la sagesse primitive. Elles sont un voile cyclique, de même que les 12 000 années divines des dieux. Chaque jour de Brahma comprend 14 manus que les kabbalistes hébreux, imitant toutefois en cela les Chaldéens, ont déguisé en les présentant comme 12 heures. Note, dans d'autres passages cependant, l'identité est révélée. Voir plus haut la citation tirée d'Ibn Jébirol au sujet des 7 cieux et de ses 7 terres, etc. Fin de la note. Le Nushtemeron d'Apollonius de Tyane est la même chose. Le dodécaèdre est caché dans le cube parfait, disent les kabbalistes. La signification mystique de cette phrase est que les 12 grandes transformations de l'esprit en matière, les 12 000 années divines, ont lieu durant les 4 grands âges ou le premier Mahayuga. Elles commencent par le côté métaphysique et suprahumain et finissent par la nature physique et la nature purement humaine du cosmos et de l'homme. La philosophie orientale peut donner le nombre d'années mortelles qui ont été employées pour les évolutions, spirituelles et physiques, tant du visible que de l'invisible, si la science occidentale est incapable de le faire. La création primaire est appelée la création de la lumière, entre parenthèses l'esprit, et la secondaire est appelée celle des ténèbres, entre parenthèses la matière. Note, il ne faut pas les confondre avec les ténèbres précosmiques ou le tout divin. Fin de la note. On les retrouve toutes deux dans la Genèse. La première est l'émanation de Dieu autogénéré, entre parenthèses les Elohim, la seconde est celle de la nature physique. C'est pourquoi l'on dit dans le Zohar, citation, « Ô camarade, camarade, l'homme en tant qu'émanation était à la fois homme et femme. Il tenait du père aussi bien que de la mère. Tel est le sens de ces mots. Et Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Tel est l'homme double. » Fin de citation. Toutefois, ce qui est lumière sur notre plan est ténèbre dans les sphères supérieures. L'homme et la femme, tenant du Père, entre parenthèses l'Esprit, se rapportent à la création primaire, et tenant de la mère, entre parenthèses la matière, se rapportent à la création secondaire. L'homme double est Adam Kadmon, le prototype abstrait mâle et femelle et l'Elohim différencié. L'homme procède du Dian Shoan et est un ange déchu, un dieu exilé comme nous le montrerons. Dans l'Inde, On décrivait ces créations de façon suivante. Note, toutes les citations qui suivent, sauf indication contraire, au sujet des sept créations sont tirées de la Vishnu Purana, livre 1, chapitre 1 à 4. 1. Première création. La création Mahatattva, ainsi nommée parce que c'était l'auto-évolution primordiale de ce qui devait devenir Maha, le mental divin, conscient et intelligent. Ésotériquement, l'esprit de l'âme universelle. La plus digne des pratiques ascétiques par sa puissance, la puissance de cette cause, chaque chose créée vient par sa nature propre. Voir note page 66. Et plus loin, puisque les pouvoirs de tous les êtres ne sont compris que par la connaissance de cela, entre parenthèses Brahma, qui est au-delà de la raison, de la création et de toutes les autres choses semblables, ces pouvoirs se rapportent à Brahma. Cela précède donc la manifestation. La première fut Maha, dit la Linga Purana. Car l'un, entre parenthèses cela, n'est ni le premier ni le dernier, mais le tout. Exotériquement, cependant, cette manifestation est l'œuvre de l'être suprême, ou plutôt un effet naturel d'une cause éternelle, ou encore, comme le dit le commentateur, on peut avoir eu l'intention de dire que Brahma fut alors créé, point d'interrogation, puisqu'il était identifié avec Maha, l'intelligence active ou la volonté active du suprême. La philosophie ésotérique emploie le terme « loi active ». C'est de la correcte compréhension de cette donnée des Brahmanas et des Puranas que dépend, croyons-nous, la pomme de discorde qui sépare les trois sectes des Védantins, l'Advaita, la Dvaita et la Vishishadvaita. La première prétend, avec raison, que Parabrahman, n'ayant en sa qualité de tout absolu aucune relation avec le monde manifesté, que l'infini n'ayant aucun rapport avec le fini, il ne peut ni vouloir ni créer. Qu'en conséquence, Brahma, Maha, Ishvara, ou par quelque nom que l'on désigne le pouvoir créateur, les dieux créateurs et tous les autres, ne sont tout simplement qu'un aspect illusoire de Parabrahman dans l'esprit de ceux qui les conçoivent. Les autres sectes, au contraire, identifient la cause impersonnelle au créateur ou à Ishvara. Maha, ou Mahabuddhi, est cependant pour les Vaishnavas, le mental divin agissant activement ou, suivant l'expression d'Anaxagore, un mental qui ordonne et organise et qui était la cause de toutes les choses. Wilson reconnut au premier coup d'œil le rapport suggestif qui existe entre Maha et le Mot ou Mut des Phéniciens, qui était femelle chez les Égyptiens, la déesse Mut, la mère, qui de même que Maha, dit-il, fut le premier résultat du mélange de l'esprit et de la matière, et le premier rudiment de la création. Ex connexio meo te mejus spiritus proditis mot ing seminium omnis creaturae omnium rerum creatio, dit Brucker, en donnant à la chose une tournure encore plus matérialiste et anthropomorphique. Note. De cette union, l'esprit produisit mot, de la création de la semence de toutes les créatures et de toutes les choses. Néanmoins, le sens ésotérique se devine sous chaque phrase exotérique, même dans les antiques textes sanscrits qui traitent de la création primordiale. Citation. L'âme suprême, la substance omnipénétrante du monde, entre parenthèses Sarvaga, étant entrée, entre parenthèses ayant été attirée, dans la matière, ou Prakriti, et dans l'esprit, ou Purusha, agita les principes changeants et immuables, car la saison de la création, le Manvantara, était arrivée. Fin de citation. Le nous des Grecs, qui est le mental, spirituel ou divin, mens ou maha, opère de la même façon sur la matière. Il la pénètre et l'agite. Spiritus intus alit totac me infus apparatus, men agitate molem et magnos et corpore miset. Traduction, l'esprit le nourrit du dedans et entrant en chaque partie, le mental suscite et interpénètre tout le grand corps. Dans la cosmogonie phénicienne aussi, l'esprit, se mêlant à ses propres principes, donne naissance à la création. La triade orphique présente une doctrine identique, car Phanès ou Eros, le chaos, renfermant de la matière cosmique brute non différenciée, et Chronos, le temps, y sont les trois principes coopérants qui émanent du point caché et inconnaissable, et qui accomplissent l'œuvre de la création. Ils ne sont autres que Purusha, entre parenthèses Phanès, Pradhana, entre parenthèses Chaos, et Kala, avec un K, entre parenthèses Chronos, ou le temps. L'excellent professeur Wilson n'aime pas cette idée, pas plus que ne saurait l'aimer un ecclésiastique chrétien, si libéral qu'il fût. Il dit que, citation, « le mélange de l'esprit ou de l'âme suprême avec ses propres principes n'est pas mécanique, c'est une influence ou un effet exercé par des agents intermédiaires qui produit des effets. » Fin de citation. La phrase suivante de la Vishnu Purana, citation, « de même que les parfums affectent le mental par leur seule proximité et non en raison d'une action immédiate sur le mental lui-même, de même le suprême influença les éléments de la création. » Fin de citation. Est correctement expliqué par le vénérable et érudit sankrististe comme suit. De même que les parfums ne réjouissent pas le mental par suite d'un contact réel, mais en raison de l'impression qu'ils produisent sur le sens de l'odorat qui les communique au mental, après quoi il ajoute, l'entrée du suprême dans l'esprit comme dans la matière est moins compréhensible que l'explication que l'on trouve ailleurs, comme par exemple l'infusion de l'esprit, identifié avec le suprême dans Prakriti, c'est-à-dire dans la matière seule. Il préfère le verset de la Padma Purana. Citation. Celui qui est appelé l'esprit, mâle de Prakriti, ce même divin Vishnu entra dans Prakriti. Fin de citation. Cette idée est certainement plus en harmonie avec le caractère plastique de certains versets de la Bible ayant trait aux patriarches, comme Lot, et même Adam, et d'autres encore d'une nature bien plus anthropomorphique. Mais c'est justement cela qui a conduit l'humanité au phallicisme. La religion chrétienne en est saturée, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La doctrine ésotérique enseigne que les Dhyan Shohans représentent la somme totale de l'intelligence divine ou mentale primordiale, et que les premiers Manus, les sept intelligences spirituelles nées du mental, leur sont identiques. D'où il résulte que Quan Chi Yin, le dragon d'or dans lequel sont les sept de la stance 3, est le logos primordial ou Brahma, le premier pouvoir créateur manifesté, et que les énergies dhyaniques sont les Manus, ou collectivement Manus Vayambhuva. La relation directe qui existe entre les Manus et Maha est de plus facile à constater. Manu est dérivé de la racine man, pensée, et la pensée procède du mental. C'est dans la cosmogonie la période pré-nébulaire. Deuxièmement, la seconde création, Bhuta, était celle des principes rudimentaires, les tanmatras. C'est pourquoi on l'appelle la création élémentaire, Bhuta Sarga. C'est la période du premier souffle de la différenciation des éléments précosmiques ou de la matière. Bhutadi signifie l'origine des éléments et précède Bhutasarga, la création ou différenciation de ces éléments dans l'aquasha primordial, chaos ou vide. Note, Vishnu est à la fois Bhutesha, le seigneur des éléments et de toutes choses, et Vishvarupa, la substance universelle ou âme. Fin de la note. Dans la Vishnu Purana, on la décrit comme procédant du triple aspect, et appartenant au triple aspect d'Ahamkara, que l'on traduit par égotisme, mais qui signifie plutôt ce terme intraduisible, la sensation d'être moi, qui jaillit tout d'abord de Maha ou mental divin. La première esquisse vague de la sensation du soi, car l'Ahamkara pur devient passionné et finalement rudimentaire ou initial, c'est l'origine de tous les êtres conscients et inconscients. Bien que l'école ésotérique repousse l'idée qu'il y ait quoi que ce soit d'inconscient, sauf sur notre plan d'illusion et d'ignorance. Durant cette phase de la seconde création, apparaît la seconde hiérarchie des Manus, les Dhyan Shohan ou Devas qui sont l'origine de la forme, Rupa, les Chitrashikandinas, à la brillante couronne, ou les Rikshas, ces Rishis qui sont devenus les hommes qui animent les sept étoiles de la Grande Ourse. Note. Comparez, pour leur type ultérieur, avec le traité écrit au XVIe siècle par Trithemius, le maître d'Agrippa. Citation. Sur les sept intelligences secondaires ou spirituelles qui, après Dieu, actionnent l'univers, traité qui, outre des cycles secrets et plusieurs prophéties, explique certains faits et certaines croyances au sujet des génies ou des Elohim qui gouvernent et dirigent les phases septénaires du progrès du monde. Fin de la note. Dans le langage astronomique et cosmogonique, cette création se rapporte à la période du brouillard de feu, la première phase de la vie cosmique dans l'état chaotique. Note. Dès le début, les orientalistes se sont trouvés dans une position très difficile pour établir un ordre quelconque dans les créations puraniques. Wilson confond souvent Brahman avec Brahma, et sur ce point ses successeurs le critiquent. M. Fitzgerald Hall préfère, pour la traduction de la Vishnu Purana, les textes sanscrits originaux aux textes dont Wilson s'est servi. Si le professeur Wilson avait joui des avantages que l'étudiant de la philosophie indienne possède maintenant, sans aucun doute il se serait exprimé d'une façon différente, dit l'éditeur de son œuvre. Cela rappelle la réponse faite par l'un des admirateurs de Thomas Taylor au savant qui critiquait ses traductions de Platon. Citation. Il est possible que Taylor ait moins bien su le grec que ses critiques, mais il connaissait mieux Platon. Fin de citation. Nos orientalistes actuels défigurent le sens mystique des textes sanscrits, bien plus que ne l'a jamais fait Wilson, bien que ce dernier se soit assurément rendu coupable de très grosses erreurs. Fin de la note. Dans le langage astronomique et cosmogonique, cette création se rapporte à la période du brouillard de feu, la première phase de la vie cosmique après l'état chaotique lorsque les atomes sortent du Laya. Troisièmement, la troisième création. La troisième création ou création Indriya fut une forme modifiée d'Ahamkara, la conception du « je », entre parenthèses d'Aham, « je ». Elle est appelée la création organique ou création des sens, Aindriyaka. Ces trois constituèrent la création Prakrita, les développements distincts de la nature indistincte, précédés par le principe indistinct. Les mots précédés par devraient être remplacés ici par ceux de commençant par, Bouddhi, car ce dernier n'est qu'une quantité ni distincte ni indistincte, mais tient des deux, tant dans l'homme que dans le cosmos. Constituant une unité ou une monade humaine sur le plan de l'illusion, Bouddhi, une fois qu'il est dégagé des trois formes d'Ahamkara et libéré de son manas terrestre, devient vraiment une quantité constante, tant au point de vue de la durée qu'à celui de l'extension, car il est éternel et immortel. Il est dit plus haut que la troisième création, abondamment pourvue de la qualité de bonté, est appelée Urdhvasrotas, et une ou deux pages plus loin, la création Urdhvasrotas est citée comme étant la sixième création ou celle des divinités. Cela prouve clairement que des Mandvantara anciens, aussi bien que d'autres plus récents, ont été confondus intentionnellement pour empêcher les profanes d'entrevoir la vérité. Les orientalistes appellent cela des incongruités et des contradictions. Citation. Les trois créations qui commencent par l'intelligence sont élémentales, mais les six qui procèdent de la série en tête de laquelle est l'intellect sont l'œuvre de Brahma. Fin de citation. Ici, création veut toujours dire phase de l'évolution. Maha, l'intellect ou mental qui correspond à Manas, le premier sur le plan cosmique et le dernier sur le plan humain, sont aussi placés ici, au-dessous de Bouddhi ou intelligence supradivine. Aussi, lorsque nous lisons dans la Linga Purana que la première création fut celle de Maha, l'intellect se manifestant le premier, il nous faut reporter cette création, déterminée à la première évolution de notre système, ou même de notre Terre, car aucune des créations précédentes n'a été discutée dans les Puranas, où l'on s'est borné à y faire parfois allusion. Cette création des premiers immortels, ou Devasarga, est la dernière de la série et possède une signification universelle. Elle se rapporte non pas spécialement à notre Mandvantara, mais à l'évolution en général qui commence toujours de la même façon, et prouve ainsi qu'elle a trait à plusieurs kalpas distinctes, car il est dit, à la fin du dernier kalpa, entre parenthèses Padma, le divin Brahma se réveilla après sa nuit de sommeil et vit l'univers vide. On nous montre alors Brahma recommençant une fois de plus les sept créations dans la phase secondaire de l'évolution et renouvelant les trois premières sur le plan objectif. Quatrièmement, quatrième création. La création Mukhya, ou primaire, attendu qu'elle est la première de la série de quatre. Ni le terme de corps inanimés ni celui de choses sans mouvement qu'emploie Wilson dans sa traduction ne donnent une idée correcte des mots sanscrits dont on se sert. La philosophie ésotérique n'est pas seule à repousser l'idée qu'un atome puisse être inorganique, car on retrouve aussi cette opinion dans l'hindouisme orthodoxe. Wilson lui-même dit aussi « Tous les systèmes hindous considèrent les corps végétaux comme doués de vie. » Charachara, ou son synonyme Shtavara et Jangama, respectivement, sont par conséquent incorrectement traduits par animé et inanimé, être sensible et inconscient, ou être conscient et inconscient, etc. Locomobile et fixe vaudrait mieux, puisque l'on considère les arbres comme possédant une âme. La Mukhya est la création, ou plutôt l'évolution organique du règne végétal. Durant cette période secondaire, les trois degrés des règnes élémentales et rudimentaires sont évolués dans ce monde et correspondent en ordre inverse aux trois créations prakritiques durant la période primaire de l'activité de Brahma. De même que durant cette période, suivant les paroles de la Vishnu Purana, la première création fut celle de Maha ou de l'intellect, la seconde fut celle des principes rudimentaires, les Tanmatra, la troisième fut la création des sens, entre parenthèses à Indriyaka. De même, durant celle-ci, l'ordre des forces élémentaires est le suivant. Premièrement, les centres naissants de forces intellectuelles et physiques. Deuxièmement, les principes rudimentaires, la force nerveuse, pour ainsi dire. Et troisièmement, la perception naissante qui est le maha des règnes inférieurs et qui est surtout développée dans le troisième ordre des élémentales. À ceci succède le règne objectif des minéraux, dans lequel cette aperception est entièrement latente pour ne se développer de nouveau que dans les plantes. La création Mukhya est donc le point médian entre les trois règnes inférieurs et les trois règnes supérieurs, ce qui représente les sept règnes ésotériques du cosmos et de la Terre. Cinquièmement, la cinquième création. La création Tiryakshrota ou Taryagonya, celle des animaux sacrés, correspond sur la Terre uniquement à la création de bêtes muettes. Note. Le professeur Wilson traduit comme si les animaux étaient plus élevés sur l'échelle de la création que les divinités ou les anges, bien que la vérité touchant les Devas soit très clairement expliquée plus loin. Cette création, dit le texte, est à la fois primaire, Prakrita, et secondaire, Vaikrita. Elle est secondaire en ce qui concerne l'origine des dieux issus de Brahma, le créateur personnel anthropomorphe de notre univers matériel. Elle est primaire en ce qui concerne Rudra, qui est la production immédiate du premier principe. Le terme de Rudra n'est pas seulement un titre de Shiva, mais il comprend aussi les agents de la création, les anges et les hommes, comme nous le montrerons plus loin. Fin de la note. Ce que l'on veut dire par animaux dans la création primaire est le germe de la conscience qui s'éveille ou de l'aperception que l'on peut faiblement constater chez quelques plantes sensitives sur Terre et plus distinctement chez la monère protistique. Note, ni plante ni animal, mais une existence entre les deux. Fin de la note. Sur notre globe, pendant la première ronde, la création animale précède celle de l'homme, tandis que les mammifères évoluent de l'homme dans notre quatrième ronde sur le plan physique. Dans la première ronde, les atomes animaux sont attirés dans une cohésion de forme humaine physique, tandis que dans la quatrième, le contraire a lieu, suivant des conditions magnétiques développées pendant la vie. C'est là la métempsychose. Voir Five Years of Theosophy, page 276. Cette cinquième phase de l'évolution, appelée exotériquement la création, peut être considérée dans la période primaire et dans la secondaire comme étant dans l'une spirituelle et cosmique et dans l'autre matérielle et terrestre. C'est l'archébiose ou l'origine de la vie. Origine, bien entendu, en ce qui concerne la manifestation de la vie sur l'ensemble des sept plans. C'est durant cette période de l'évolution que le mouvement universel absolument éternel ou la vibration, ce que l'on appelle dans le langage ésotérique le grand souffle, se différencie pour devenir l'atome primordial, le premier manifesté. De jour en jour, à mesure que la science physique et chimique fait des progrès, cet axiome occulte trouve sa corroboration dans le monde du savoir. L'hypothèse scientifique d'après laquelle les éléments les plus simples de la matière sont eux-mêmes identiques dans leur nature et ne diffèrent l'un de l'autre que par suite de la répartition variable des atomes dans la molécule ou le fragment de substance ou des modes de sa vibration atomique, gagne tous les jours du terrain. Ainsi comme la différenciation du germe primordial de la vie doit précéder l'évolution du Dhyan Shohan du troisième groupe ou hiérarchie d'être, dans la création primaire avant que ces dieux puissent être incorporés dans leur première forme, Rupa éthérée, de même et pour la même raison, la création animale doit précéder l'homme divin sur terre. C'est pourquoi nous lisons dans les Puranas que la cinquième création, ou création Tarya-Gyonya, fut celle des animaux. Sixièmement, sixième création. La création Urdhvasrotas, ou celle des divinités. Mais ces divinités ne sont que les prototypes de la première race, les pères de nos progénitures nés du mental avec des os tendres. Ce sont ceux qui évoluèrent les nés de la sueur, expression qui est expliquée dans le volume 3. Les êtres créés, explique la Vishnu Purana, bien qu'ils soient détruits dans leur forme individuelle aux époques de dissolution, sont cependant affectés par les actes bons ou mauvais de leurs existences antérieures et n'échappent jamais à leurs conséquences. Lorsque Brahma reproduit le monde, ils deviennent les enfants de sa volonté. Rassemblant son esprit en lui-même, par la volonté du yoga, Brahma crée les quatre catégories d'êtres nommés les dieux, les démons, les progéniteurs et les hommes. Progéniteurs signifient ici les prototypes et les auteurs de la première race racine des hommes. Les progéniteurs sont les pitris et sont divisés en sept classes. Dans la mythologie exotérique, ils sont représentés comme nés du flanc de Brahma, comme Ève de la côte d'Adam. Après la sixième création, et pour clore la création en général, vient ensuite, septièmement, la septième création, l'évolution des êtres, Arvakskrotas, qui fut celle de l'homme. La huitième création dont il a été fait mention n'est pas une création du tout. C'est un masque, car elle a trait à un processus purement mental. La connaissance de la neuvième création qui à son tour est un effet, se manifestant durant la création secondaire de ce qui fut une création durant la primaire, entre parenthèses prakrita. Note, ces notions, dit le professeur Wilson, de la naissance de Rudra et des saints, semblent avoir été empruntées au Shaiva et avoir été greffées maladroitement sur le système Vaishnava. On aurait dû consulter la signification ésotérique avant de hasarder une telle hypothèse. Fin de la note. La huitième, appelée Anugraha, la création Pratyayasarga ou intellectuelle des Samkhya, est donc la création dont nous avons une idée sous son aspect ésotérique ou à laquelle nous donnons un consentement intellectuel, entre parenthèses Anugraha, par opposition à la création organique. C'est la perception correcte de nos relations avec l'ensemble des dieux et surtout de celle que nous avons avec les Kumaras, la prétendue neuvième création, qui est en réalité un aspect ou une réflexion de la sixième dans notre Manvantara, entre parenthèses le Vaivasvata. Il y en a une neuvième, la création Kumara, qui est à la fois primaire et secondaire, dit la Vishnu Purana, le plus ancien des textes de ce genre. Note, Parashara, le rishi védique qui reçut la Vishnu Purana de Pulastya et l'enseigna à Maitreya, est placé par les orientalistes à diverses époques. Comme on le fait correctement observer dans la Hindu Classical Dictionary, les diverses théories au sujet de son ère diffèrent grandement, de 575 avant Jésus-Christ à 1391 avant Jésus-Christ, et on ne peut s'y fier. C'est exact, mais ces dates ne sont pas moins dignes de foi que n'importe quelles autres données par les sanskritistes, si fameux au point de vue de la fantaisie arbitraire. Fin de la note. Ainsi que l'explique un texte ésotérique, citation, les Kumaras sont les Dhyani, dérivés immédiatement du principe suprême, qui apparaissent de nouveau durant la période de Vaivasvata Manu pour le progrès de l'humanité. Fin de citation. Note, il est possible qu'ils marquent en effet une création spéciale ou extra, puisque ce sont eux qui, en s'incarnant dans les coques humaines insensibles des deux premières races racines et d'une grande partie de la troisième race racine, crée pour ainsi dire une nouvelle race, celle des hommes pensants, conscients et divins. Fin de la note. Le traducteur de la Vishnu Purana corrobore cette assertion en disant que « ces sages vivent aussi longtemps que Brahma et ils ne sont créés par lui que durant le premier kalpa, bien que leur génération soit souvent placée à tort dans le Kalpa secondaire, Vara ou Padma. Les Kumaras sont donc exotériquement la création de Rudra ou Nilaohita, une forme Shiva, par Brahma, et celle de certains autres fils nés du mental de Brahma. Dans l'enseignement ésotérique, au contraire, ce sont les progéniteurs du vrai soi spirituel dans l'homme physique, les Prajapati supérieurs, tandis que les Pitri, ou Prajapati inférieurs, ne sont autre chose que les pères du modèle, ou type de sa forme physique, fait à leur image. 4 et parfois 5 sont mentionnés librement dans les textes exotériques, car 3 des Kumaras sont secrets. Les 4 Kumaras sont les fils nés du mental de Brahma. Quelques-uns en indiquent 7. Tous ces 7 Vaidatra, nom patronymique des Kumaras, les fils du constructeur, sont mentionnés et décrits dans la Samkhya Karika d'Ishvara Krishna, avec le commentaire de Gaudapada Acharya, le Paragourou de Shankaracharya, qui est joint. On y discute la nature des Kumaras. Bien que l'on évite de les mentionner tous les 7 par leur nom et que l'on préfère les appeler les 7 fils de Brahma, ce qu'ils sont en effet, puisqu'ils sont créés par Brahma dans Rudra. La liste des noms qu'on nous y donne est la suivante. Sanaka, Sanandana, Sanatana, Kapila, Ribhu et Panchashika. Ce ne sont toutefois que des masques. Note, la liste réelle est Sanaka, Sanandana, Sanatana, Azuri, Kapila, Boru et Panchashika. Voir le commentaire de Gaudapada 5.1. Fin de la note. Les 4 exotériques sont Sanat Kumara, Sananda, Sanaka et Sanatana, et les 3 ésotériques, Sana Kapila et Sanat Sujata. Nous attirons spécialement l'attention sur cette classe de Dhyan Chohan, car c'est ici que se trouve le mystère de la génération et de l'hérédité, dont on donne un aperçu dans le commentaire sur la stance 7, en traitant des 4 ordres d'êtres angéliques. Le volume 3 explique leur position dans la hiérarchie divine. En attendant, voyons ce que disent d'eux les textes exotériques. Ils en disent peu de choses, et pour celui qui n'arrive pas à lire entre les lignes, rien. Il nous faut recourir ici à d'autres Puranas pour avoir l'explication de ce terme, fait remarquer Wilson, qui ne se doute pas un seul instant qu'il se trouve en présence des anges des ténèbres, le grand ennemi mythique de son Église. Il se borne donc à chercher à établir que ces divinités, refusant de procréer, et se révoltant donc contre Brahma, restèrent, comme l'implique le nom du premier, Sanat Kumara, toujours des adolescents, des Kumaras, c'est-à-dire toujours purs et innocents, ce qui fit donner à leur création le nom de création Kaumara. Les Puranas pourtant peuvent nous apporter un peu plus de lumière. Citation. Étant toujours tel qu'il est né, il est appelé ici un adolescent, aussi connaît-on bien son nom comme étant Sanat Kumara. Extrait du Linga Purana. Dans les Shaiva Puranas, on parle toujours des Kumaras comme de yogis. La Kurma Purana, après les avoir énumérés, dit « Ces 5, ô Brahman, furent des yogis qui avaient acquis une exemption entière de la passion. Ils sont 5 parce que 2 des Kumaras churent. » Quelques-unes des traductions des orientalistes sont si peu dignes de foi que, dans la traduction française de la Arivahamsa, il est dit « Les 7 Prajapati, Rudra, Skanda, entre parenthèses son fils, et Sanat Kumara, commencèrent à créer des êtres, tandis que le texte dit, comme le montre Wilson, « Ces 7 créèrent des descendants. » Rudra fit ainsi, mais Skanda et Sanat Kumara, restreignant leur pouvoir, s'abstinrent de la création. On parle quelquefois des 4 ordres d'êtres, comme Dambamshi, que Wilson traduit par littéralement les eaux, et qu'il croit être un terme mystique. C'en est un sans aucun doute. Mais il est évident qu'il n'a pas pu comprendre la vraie signification ésotérique. Les eaux et l'eau sont le symbole de l'Aquasha, l'océan primordial de l'espace, sur lequel Narayana, l'esprit autogénéré, se meut appuyé sur ce qui est sa progéniture. L'eau est le corps de Nara. C'est ainsi que nous en avons entendu expliquer ce nom d'eau. Parce que Brahma se repose sur l'eau, on le nomme Narayana. Pur lui-même, Purusha créa les eaux pures. L'eau est en même temps le troisième principe du cosmos matériel et troisième du royaume de l'esprit. L'esprit du feu, de la flamme, de l'aquasha, de l'éther, de l'eau, de l'air et de la terre constitue les principes cosmiques sidéraux, psychiques, spirituels et mystiques éminemment occultes sur chaque plan de l'être. Les dieux, les démons, les pitris et les hommes sont les quatre ordres auxquels s'applique le terme d'Ambamshi, parce qu'ils sont le produit des eaux, au point de vue mystique, de l'océan aquashique et du troisième principe de la nature. Dans les Védas, c'est un synonyme de Dieu, au pluriel. Les pitris et les hommes sur terre sont les transformations ou les renaissances de Dieu, au pluriel, et de démons, esprits, sur un plan supérieur. L'eau est, dans un autre sens, le principe féminin. Vénus Aphrodite est la personnification de la mer du dieu de l'amour, la génératrice de tous les dieux. De même que la Vierge Marie des chrétiens est Marée, la mère du dieu d'amour de l'Occident, de la miséricorde et de la charité. Si celui qui étudie la philosophie ésotérique réfléchit profondément sur ce sujet, il remarquera certainement combien le terme d'Ambashi est suggestif dans ses multiples relations avec la Vierge du Ciel, avec la Vierge céleste des alchimistes et même avec les eaux de la grâce des baptistes modernes. Parmi toutes les sept grandes divisions des Dhyanchoan ou Deva, il n'en est aucune qui ait plus de rapport avec l'humanité que les Kumaras. Les théologiens chrétiens qui les ont abaissés au rang d'anges déchus et les appellent maintenant Satan et démons sont imprudents, car il faut réserver au milieu de ces habitants du ciel qui refusent de créer une place très importante à l'archange Michel, le plus grand saint patron des églises orientales et occidentales, tant sous son nom de Saint Michel que sous celui de Saint Georges, vainqueur du dragon, qui est supposé en être le sosie terrestre. Les Kumaras, les fils du mental de Brahma, Rudra ou de Shiva, au point de vue mystique le destructeur, hurlant et terrible des passions humaines et des sens physiques qui s'opposent toujours au développement des perceptions spirituelles supérieures et à la croissance de l'homme interne éternel, sont les enfants de Shiva, le Mahayogi, le grand patron de tous les yogis et de tous les mystiques de l'Inde. Shiva Rudra est le destructeur, comme Vishnu est le conservateur, et tous les deux sont les régénérateurs de la nature spirituelle, aussi bien que physique. Pour vivre comme plante, il faut que la semence meure. Pour vivre en qualité d'entité consciente dans l'éternité, il faut que les passions et les sens de l'homme meurent avant son corps. Le dicton « vivre, c'est mourir et mourir, c'est vivre » a été trop peu compris en Occident. Shiva, le destructeur, est le créateur et le sauveur de l'homme spirituel, de même qu'il est bon jardinier de la nature. Il arrache les plantes humaines et cosmiques et tue les passions de l'homme physique afin de faire vivre les perceptions de l'homme spirituel. Il en résulte que les Kumaras, qui sont les ascètes vierges, refusent de créer l'être matériel appelé l'homme. On a raison de soupçonner un lien direct entre eux et l'archange chrétien Michel, l'adversaire vierge du dragon Apophis, dont toute âme, qui est trop faiblement unie à son esprit immortel, est la victime, l'ange qui, ainsi que le prouvent les gnostiques, refusa de créer, exactement comme le firent les Kumaras. Cet ange protecteur des Juifs ne préside-t-il pas à Saturne, entre parenthèses Shiva ou Rudra, et au sabbat, jour de Saturne? Ne le dépeint-on pas comme étant de la même essence que son père, Saturne, et ne l'appelle-t-on pas le fils du temps, Chronos, ou Kala, le temps, une des formes de Brahma, entre parenthèses Vishnu et Shiva? Le vieux temps des Grecs, avec sa faux et son sablier, n'est-il pas identique à l'ancien des jours des Kabbalistes, cet ancien ne faisant qu'un avec l'ancien des jours de l'hindou, Brahma sous sa triple forme, dont le nom est aussi Sanat l'Ancien? Tout Kumara porte le préfixe de Sanat et de Sana. Shanicheshara est Saturne, la planète Shani, le roi Saturne, dont le secrétaire en Égypte était le premier Thoth Hermès. Ils sont donc identifiés avec la planète, comme avec le dieu Shiva, et ceux-ci sont à leur tour dépeints comme étant les prototypes de Saturne, qui n'est autre que Bel, Baal, Shiva et Jéhovah Sabaoth, dont l'ange de la face est Michel, qui est comme Dieu. C'est le patron et l'ange gardien des Juifs, comme nous le dit Daniel. Et avant que les Kumaras ne fussent rabaissés par ceux qui ignoraient jusqu'à leur nom au rang de démons et d'anges déchus, les Ophites grecs, les prédécesseurs et les précurseurs attendant ce culte de l'Église catholique romaine, après sa scission et sa séparation d'avec l'Église grecque primitive, avaient identifié Michel avec leur ophiomorphos, l'esprit rebelle et contraire. Ceci ne signifie pas autre chose que l'aspect inversé au point de vue symbolique d'office, la sagesse divine ou Christos. Dans le Talmud, Michel est le prince de l'eau et le chef des sept esprits, pour la même raison qu'un de ses nombreux prototypes, Sanat Sujata, le chef des Kumaras, est appelé Ambamsi, les eaux, d'après le commentaire de la Vishnu Purana. Pourquoi ? Parce que les eaux sont un autre nom donné au grand abîme, les eaux primordiales de l'espace ou chaos, et signifient aussi mère Amba, qui veut dire Aditi et Aquasha, la vierge mère céleste de l'unité visible. En outre, les eaux du déluge sont aussi appelées le grand dragon, ou office, Ophiomorphos. On parlera des Rudras et de leur caractère septénaire d'esprit du feu dans le symbolisme annexé aux stances dans le volume 3. Nous y examinerons aussi la croix, entre parenthèses 3 plus 4, sous sa forme primordiale et sous ses formes ultérieures, et nous nous servirons pour établir une comparaison des nombres pythagoriciens rapprochés de la métrologie hébraïque. L'immense importance du nombre 7 sera mise ainsi en évidence comme étant le nombre racine de la nature. Nous l'étudierons en nous plaçant au point de vue des Védas et des écritures saintes chaldéennes, tel qu'il a existé en Égypte des milliers d'années avant Jésus-Christ et tel qu'il est interprété dans les archives gnostiques. Nous démontrerons à quel point son importance comme nombre fondamental a été peu à peu reconnue par la science physique, et nous nous efforcerons de prouver que l'importance attachée au nombre 7 durant toute l'Antiquité n'était pas due à l'imagination fantaisiste de prêtres sans instruction, mais à une profonde connaissance de la loi naturelle.